J'aimerais, si Dieu le permet, bon, pendant quelques semaines, partager ce que moi j'ai appelé les actes des fils des prophètes. Normalement, 3 semaines, si Dieu le permet, si l'inspiration vient, évidemment. Mais je ne vais pas les présenter dans l'ordre chronologique. Donc le premier, je vous invite à prendre 2 Rois, chapitre 6, et les 7 premiers versets. 2 Rois 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis, devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « À mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Jusque-là, la lecture. Je vous invite à la prière. Père éternel, encore une fois, nous voulons nous mettre devant ce texte. Je veux me mettre devant ce texte que tu as mis dans ta parole. Merci parce que tu vas encore nous donner ton message. Mais Seigneur, tu vas nous parler. Seigneur, nous voulons ouvrir nos oreilles pour t'écouter. Seigneur, que je ne sois, comme je dis toujours, un simple haut-parleur pour moi-même et pour mes frères. Et qu'à toi revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Les actes des fils des prophètes. Qui sont d'abord ces fils des prophètes? Parce qu'on peut se dire, tiens, c'est un peu bizarre, ça n'apparaît que là. Oui, effectivement. C'est un genre de groupement de prophètes qui apparaît sous le règne du roi Omri, qui régna sur le royaume d'Israël. Omri, Akab a succédé à Omri, donc il est un peu mieux connu. Donc, vous lirez 2 Rois, 1 à 6 au moins, comme ça vous verrez. Et nous sommes vers l'an 850 avant Jésus-Christ, et c'est le culte de Baal qui a été institué près d'un siècle avant par le roi Jéroboam, fils de Salomon, qui est en plein essor et qui menace la religion de Yahvé. Alors ces associations d'apprentis prophètes ont donc été développées par le prophète Élie et le prophète Élisée afin de maintenir un témoignage. Le témoignage du culte du Dieu d'Israël, évidemment en opposition au culte de Vaudor de Jéroboam. Le texte des livres de Rois nous rapporte qu'il y avait plusieurs de ces communautés de prophètes, dont une ville, l'autre Jéricho, il y en avait à Bethel, et il y en avait dans la montagne d'Éphraïm. Vous devez lire les 5 chapitres pour le savoir. Donc, je vous renvoie 2 Rois, chapitre 1 à 5. Et cette région est au nord de Jérusalem et jusque Samarie, qui est à l'époque la capitale du royaume. Le verset 7 du chapitre 2 nous parle de 50 hommes. 50 apprentis prophètes, 50 fils des prophètes. Peut-être vous savez ou vous ne savez pas. Mais dans l'Ancien Testament, le mot « fils » a 3 significations. D'abord, un descendant direct. Ça n'a pas changé, c'est la logique. Deuxièmement, un descendant plus éloigné. On parle souvent de Jésus comme le fils de David, alors qu'il y a quand même quelques générations qui les séparent. Et puis, troisième signification, c'est un élève d'une confrérie. C'est visiblement ce troisième sens que l'on nous parle des fils des prophètes. Des hommes qui s'attachaient à un prophète ou étaient appelés à recevoir une instruction, son instruction, une sorte de disciple. Ce terme, évidemment, peut s'appliquer au vrai comme au faux prophète. On ne fait pas de différence. La Bible ne nous dit pas comment étaient organisés ces prophètes, ces groupements, ces communautés, ou encore peut-être ces écoles de prophètes, ce genre d'institut biblique. Mais ce qui nous indique le texte, c'est qu'ils étaient assis en face du prophète. Verset 1, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis, Le ventre est trop étroit. Ils sont là. Le culte officiel centré sur Baal et l'époque, la religion est complètement corrompue. Et ça les empêchait de se réunir en église comme maintenant, église officielle, ou temple, ou lieu qui avait pignon sur rue. Donc, ils se réunissaient au pied du prophète, dans des lieux peut-être qu'ils avaient construits eux-mêmes, et peut-être aussi dans des maisons. On ne sait pas trop bien. Un peu comme certaines communautés actuelles qui se mettent dans des maisons, parfois parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la religion officielle, et ils se groupent en communauté, petite communauté, et ils sont parfois insatisfaits de ce qui se passe autour de nous, donc ils se mettent en petits groupes. C'est courant. Rien de changé, rien de nouveau sous le soleil. Ces prophètes, ces fils de prophètes, ben, apparemment n'exerçaient peut-être pas d'activité prophétique particulière, mais ils suivaient fidèlement l'enseignement des prophètes. Il faut peut-être définir maintenant ce qu'est un prophète. Qu'est-ce que faisait le prophète? Quelle était sa fonction? D'abord, c'était un envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu, appelé à proclamer la parole de Dieu. Le prophète transmettait ce que Dieu disait. Bon ou mauvais, suivant l'état. Il peut aussi, accessoirement, annoncer des choses qui vont arriver dans l'avenir. Mais au départ, le prophète est d'abord un prédicateur de la parole de Dieu. Il parle, il enseigne. Et les fils des prophètes, ceux qui suivent l'enseignement de la parole de Dieu, et qui peut-être deviendront un jour eux-mêmes prophètes. Ceci dit, le lieu où ils se réunissent, le texte nous dit qu'il est trop petit. Ils décident de construire un local un peu plus grand. Alors chacun va se dire, on va aller tout près du Jourdain, là il y a du bois. Et le texte nous dit que chacun s'occupera de son bois. Alors, jusqu'au Jourdain, voilà, le verset 2 nous dit « Nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Darby parle d'un lieu pour y habiter. Mais vivaient-ils vraiment ensemble? Vous allez me dire, le texte ne dit pas. Peut-être, on ne sait pas, mais nous verrons quand même, dans les semaines qui viennent, qu'ils sont pauvres. Et le fait de se mettre ensemble, peut-être, leur procurait une certaine aisance ou certains avantages. Un peu comme les disciples dans les Actes des Apôtres qui mettaient tout en commun. Et c'est avec le consentement d'Élisée que les fils des prophètes se mettent en route. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une petite parenthèse sur les paroles du prophète. C'est court, net, précis. « Allez, j'irai. Où est-il tombé? Enlève-le. » Bizarre comme enseignement, mais bon, c'est le texte. Mais dans son apparente rudesse, il consent quand même à les accompagner. « Allez, je vais aller avec vous, malgré ces travaux pratiques. C'est moi qui prêche, mais bon, je vais quand même donner un coup de main. » Ils partirent donc avec eux, arrivant au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Comme il est décrit, une catastrophe arrive. Le fer d'une des haches se détache et tombe à l'eau. Bien déçu, il aurait pu tomber sur la berge. N'importe où. Mais pourquoi une catastrophe? Il n'y a qu'à nos bricots du coin. Ça ne coûte pas cher. Pas de problème, il y en a. Aujourd'hui, à cette époque-là, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'âge du fer moyen et les objets en fer ont une très grande valeur et n'étaient pas accessibles à tout le monde. Les fils des prophètes, n'étant pas fortunés, ils se débrouillaient comme ils pouvaient, ils empruntaient. Ils ont construit quand même en matériaux, alors qu'à l'époque, on construisait déjà en pierre, en édifice dur. Ils prennent du bois pour avoir plus facile, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et parmi ces bâtisseurs, comme j'ai dit, il y en a un qui a une géniale idée d'emprunter une hache. C'est précisément le fer qui tombe. Vraiment, pas de bol, le gars. Vous savez que maintenant, si on emprunte une machine, vous êtes responsable de votre machine que vous prêtez. Si je prête ma disqueuse, que vous faites une saignée, que vous vous blessez, c'est moi le responsable. Alors, et le manche, voilà, le fer qui est tombé à l'eau, avec peut-être le manche. Imaginons, peut-être qu'avec le manche, il serait remonté. Mais non, pas de bol, il n'y a que le fer qui tombe. Manque de bol ou volonté de Dieu? Ah, telle est la question. Peut-être une mise à l'épreuve. Le grand prophète Élisée est quand même avec eux. Et malgré cela, ils ne sont quand même pas à l'abri des soucis. C'est pas parce qu'une église a un prédicateur, un grand nom, un grand prédicateur, un grand homme de Dieu, que l'épreuve passera à côté. Que du contraire, parfois. J'en ai pour preuve, hélas, l'exemple de la méga-église de Mulhouse, qui n'a pas échappé au coronavirus. C'est pas parce qu'on est grand qu'on ne passe pas à côté de l'épreuve. Les fils des prophètes qui se rendent compte de la perte ne pensent pas directement à la valeur. Ils pensent qu'il faut rendre. Ils pensent à son propriétaire, qu'il faudra dédommager. En effet, la hache n'était pas à lui. Comme le texte nous dit, elle était empruntée. Nous pourrions dès lors nous interroger sur ce que dit la Bible sur le prêt, sur l'emprunt. Que nous conseille la Bible ? Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il y a aussi le slogan actuel, vous savez. Hein. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Tous les jours, on entend ça. Ça coûte. Nous avons ça certainement tous. Hein. Je ne jette pas la pierre, parce que bon, si je l'ai fait, emprunter pour une maison, pour une voiture ou quelque autre raison, mais tant que le dernier centime n'est pas remboursé, c'est pas à vous. Hein. On est toujours tenu, hein. Toujours anxieux. Hein. Est-ce qu'on va savoir y arriver avec la crise? On comprend mieux l'attitude de l'apprenti prophète bâtisseur qui ne pense plus au travail, mais aux conséquences de cette perte qu'elle peut avoir sur son avenir, sur sa famille, pendant plusieurs années. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils auraient pu faire une collecte entre eux et dire « ben ça va, on va faire une collecte, on va rembourser ». Ou alors, quelqu'un plongeait, allait le rechercher, peut-être qu'il ne savait pas nager, peut-être que l'eau était trop profonde. Ou alors c'est comme dans certaines communautés, chacun pour soi, quand vient l'épreuve. Surtout quand c'est pas de ma faute, je vais pas me mêler quand même. Hein. Il a pensé à emprunter le gars, hein, sérieusement. Alors qu'est-ce qu'on se fait? On s'adresse toujours au responsable. Monsieur le pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, monseigneur, elle était empruntée. L'homme de Dieu, lui, ne se laisse pas démonter ni troubler. Où est-il tombé? Là. Il taille un morceau de bois, il jette à l'endroit indiqué, et le fer apparaît. Miracle! Oh, miracle! C'est trop facile, quand même. Il a sûrement pris un grand bâton qu'il a été chercher comme ça. Il est passé dans le trou et hop, il a sorti. Il y en a qui ont essayé d'expliquer. Dans le texte original, le terme hébreu dit clairement « il fit flotter le fer ». Il n'a pas été le recherché, il n'a pas été le cadavre. Non. Il fit flotter le fer. Tout le monde sait bien que le fer ne flotte pas, à part un bateau. Et encore, hein, histoire du Titanic, d'enfer aussi. Bon, ouais, passons. C'est donc un miracle, je suis désolé. C'est-à-dire une circonstance dans laquelle Dieu suspend les lois ordinaire de sa création. C'est pas normal que le fer surnage. J'ai lu bien des discussions et bien des commentaires sur les explications concernant les miracles. Oh, oui, mais est-ce qu'il a vraiment ouvert l'eau? Est-ce qu'il n'a pas eu un grand vent? Le miracle, c'est que ça arrive au bon moment. S'il arrive trop tôt ou trop tard. C'est donc un miracle. Nous avons décidé, nous aussi, de vivre dans ce qu'un commentateur dit l'hypothèse Dieu. Il s'agit donc de défendre la conviction du miracle, je dirais défendre notre foi en un Dieu unique, qui a le pouvoir de faire sauter le fer. Cela signifie que nous devons et que nous pouvons accepter tous ces récits de miracles, quels qu'ils soient, parce que nous sommes persuadés de la puissance créatrice de Dieu. C'est Dieu qui a créé le fer. C'est Dieu qui a créé l'eau. Il fait ce qu'il veut après. Nous sommes dans la présence d'un Dieu divin. Nous avons le droit de prendre Dieu au mot, avec ses aspects naturels, ses écrits difficiles parfois, et ses miracles étonnants. Tantôt, il y a ma sœur qui me pose une question. Enoch, il est enlevé, il n'est pas ressuscité. C'est un problème difficile. Moi, je lui ai dit, je vais faire une petite liste avec toutes les questions que j'ai à demander à Dieu. Seigneur, dis-moi un peu ça maintenant. Il y a des choses difficiles à accepter, telles qu'elles sont. Mais arrivé à ce stade, on peut tirer déjà deux conclusions de ce récit. Ce n'est pas parce que nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu que nous ne serons pas éprouvés. Et si nous sommes éprouvés, le Seigneur nous donnera le moyen d'en sortir. Je vous lis un texte que vous connaissez bien, Corinthiens 10, 11, 13. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, mais aucune tentation, le même mot c'est épreuve. En hébreu, veut dire tentation ou épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et si Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Il n'a pas dit qu'il éliminerait. Il n'a pas dit qu'il ferait flotter le fer directement. Il a dit vous supporterez. Et une troisième chose à remarquer, l'événement se déroule près du Jourdain. Le fer tombe dans le Jourdain, probablement car près du Jourdain, il y avait énormément de bois, donc c'était plus facile. Et le récit, vous lirez le chapitre suivant, c'est le récit de 2 Rois 5, nous relate la guérison de Naaman. On a entendu parler de la guérison de Naaman. Hein, pour qu'il soit purifié, il doit aller plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. On pourrait dire et croire que les eaux du Jourdain sont magiques. Ceux qui ont été en Israël, à mon avis, ils ont sûrement été là-bas. Il y en a qui ont été baptisés là-bas. C'est de l'eau. Désolé. Même si c'est le Jourdain, même si c'est en terre sainte, c'est de l'eau. C'est pas parce qu'il y a eu un miracle de purification de lèpre du célèbre chef de l'armée de Syrie que tout va bien fonctionner. Les mêmes eaux ont été néfastes pour le fer de lance. Pour le fils de prophète, il est clair que la bénédiction et la malédiction ne dépendent pas d'un objet ou d'un lieu géographique, fût-il sacré, ou déclaré comme tel. Le monde matériel peut servir d'illustration aux leçons spirituelles, mais les lieux et les objets n'ont aucune vertu spirituelle en soi, sauf si Dieu leur ordonne la capacité. J'ai discuté une fois avec un pasteur qui me disait « Ils ont fait tellement de bruit en tournant autour de Jéricho que les murailles sont tombées. » On peut faire le bruit que vous voulez, même 1 million de personnes qui tournent autour des murailles, autour de Liège, ou tout ce que tu veux. Si Dieu n'a pas décidé, il n'a pas décidé. J'ai été relire le texte, quelques versets avant, on dit « Dieu a donné » dédié Jéricho par interdit. Dieu a donné l'autorisation que les murailles tombent. C'est pas parce qu'ils ont poussé dessus qu'ils ont cassé. Ils sont même arrivés avec un burin, ça va tomber. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui donne les capacités. Et pour terminer, je reviens sur ce récit parce qu'il m'a interpellé au niveau de l'emprunt, sur le fait d'emprunter. Et je veux vous dévoiler ma vie, peut-être que j'ai déjà fait, mais j'ai un jour fait une association avec 3 autres personnes pour acheter un commerce, et pour ce, on a contracté un emprunt auprès d'une banque, Mais bon, on s'est fait un peu avoir en achetant ce commerce et l'argent ne rentrait pas comme on voulait. Et je vous passe tous les détails. Le problème est que le commerce a disparu, mais le crédit est resté. Vu qu'on signe caution solidaire et indivisible, tant que la dette n'est pas remboursée totalement, s'il y en a trois qui n'ont pas d'argent et qu'il y en a un qui a d'argent, on va chez vous. Bref, je vous passe tout ça. Et il y a quelqu'un qui a repris le commerce comme ça, mais il devait normalement décautionner et il n'a pas fait. 11 ans dans les tribunaux, 11 ans à discuter, 11 ans à essayer de s'en sortir, condamné au double ce que j'avais emprunté. Grâce à Dieu, on en est sorti. On a payé, oui, on a payé. Mais voilà, il faut se dire que toute chose doit être payée, doit être due jusqu'au dernier centime. C'est là pour nous dire que nous-mêmes nous sommes prêtés. Nous sommes prêtés. C'est notre Créateur qui nous a donné la vie. Notre corps nous a été donné. Nous sommes empruntés à vivre sur la terre. Le souffle que nous avons reçu de Dieu, tôt ou tard, il va le reprendre. Tôt ou tard, il faudra le rendre. Mais à quel prix? À quel prix, ma vie? Notre corps, notre âme, notre esprit ne nous appartiennent pas. On n'est pas maître de nous. Du jour au lendemain, qu'avons-nous fait de ce que Dieu nous a prêté? Dans quel état allons-nous lui rendre? Je ne parle pas de notre corps, on sait très bien qu'il se désagrège. On était tous dans la boue du péché, un peu comme le fer de hache qui était dans la vase. Il a fallu l'intervention de Jésus sur la croix pour nous en sortir. Pour remonter le fer qui flotte, Élisée a utilisé le bois, qui a la capacité, lui, de surnage. Le bois surnage. Il y a eu donc transfert de propriété. Et c'est à ça que je voulais en arriver, c'est que c'est là le miracle du salut. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Il y a eu transfert sur le coût de notre dette que nous avions à rembourser. Le prix qui était sur nos têtes, Jésus l'a payé. Jésus l'a remboursé. Et il ne nous demande rien. Simplement de l'adorer. Le texte révèle par trois fois le lieu où le fer est tombé. Chapitre 6, l'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. Trois fois. Il est parlé de la place. Détail qui, pour moi, a son importance, c'est là que le mal a été fait. Pour nous, le péché d'Adam a eu lieu sur terre et a corrompu l'entièreté de la planète et ses habitants. Il fallait que Jésus vienne où le mal a été commis. Il s'est fait, nous. Il s'est fait homme, tout fils de Dieu qu'il était, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est venu là où le péché a été fait. Le dernier verset de notre texte nous montre que nous avons, nous, une démarche à faire. Verset 7, puis il dit « Enlève-le !» Il avança la main et le prit. Il faut saisir le miracle de Dieu. Il faut saisir ce que Dieu nous propose. Il faut accepter le salut en Jésus-Christ. Sinon, rien. Et pour conclure, ce miracle du fer de hache emprunté nous montre que Dieu est puissant, même dans les petites choses, mais qu'il peut l'être encore plus. Quant au salut de l'humanité, et notre salut à nous. À nous. Que Christ est venu pour nous. Alors parfois, si on a l'impression de couler, ayons simplement le réflexe de penser que nous sommes fils et filles de Dieu, et croyons au Seigneur, et crions lui aussi. Souviens-toi que nous sommes empruntés,
viens à notre secours. Dis un mot et je serai guéri. Amen. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi parce que nos vies sont dans ta main. Nos vies sur terre ne tient qu'à un fil, mais c'est un fil de grâce qui est dans ta main. Seigneur, nous voulons te louer pour ça et t'adorer. Mais encore une fois, qu'à toi revienne toute la gloire. Amen.